Et ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Guy Tournet, qui a donc publié au mois d'avril Radiation dans la collection L'Infini chez Gallimard. Un an auparavant, il avait publié Le Décodeur, son premier livre qui a fait un gros effet sur qui s'intéresse à l'expérimentation en France. Donc également dans la collection L'Infini de Gallimard. Guy, bonsoir, merci bonsoir. Beaucoup d'être avec nous. Alors, première question un peu pour présenter Radiation. Dans Radiation, on suit un personnage qui s'appelle Frank Wahlberg. Et ce personnage évolue, on va dire, dans les cadres sup. C'est quelqu'un qui fait des travaux un peu intermittents comme ça.
Un intello précaire.
On suit Frank Wahlberg. Et là, j'aimerais qu'en quelques phrases, tu nous dis ce qu'il se passe. Parle-nous un peu de l'intrigue, du déroulement du livre, rapidement, juste pour saisir un peu de quoi il s'agit.
Donc c'est un personnage qui est BAC+5, qui est un intello précaire, qui travaille dans une société de conseil qui s'appelle Grayson & Grayson, et dont on suit les tribulations depuis son entretien d'embauche jusqu'à son procès contre son ancien employeur. Et le fil rouge du livre est constitué par les tribulations judiciaires de ce personnage. Et au fil de ces tribulations, il s'installe toute une réflexion sur le rapport au travail, le rapport à l'argent, notamment à l'heure de la mondialisation financière, puisque ce personnage, par ailleurs, est un habile boursicoteur. Et donc, à travers ce personnage, j'ai essayé de poser la question du rapport entre travail et finance, entre emploi et argent, et donc de développer une réflexion sur ces thèmes très, très d'actualité aujourd'hui.
Tu as choisi la forme de la fiction pour le faire. On sent que tu aurais pu tout à fait avoir le talent d'en faire un essai sur la question du travail. Pourquoi avoir choisi la forme de la fiction? Je ne dis pas la forme du roman, c'est un roman aussi. Faire le terme de fiction.
Donc moi, c'est un texte que j'ai intitulé en quatrième de couverture comme une docu-fiction, c'est-à-dire qu'il alterne les passages, je dirais, narratifs plus conventionnels avec des scènes, je dirais, parfois drôles, parfois un petit peu romanesques, et en alternant des chapitres, je dirais, plus théoriques, de réflexion. Et ce qui m'intéressait, c'était d'incarner une réflexion. C'est-à-dire que je ne voulais pas simplement un essai un peu théorique sur ces questions-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'essais qui sont sortis sur ces questions-là. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en scène un personnage de chair et d'essayer de montrer concrètement comment pouvaient s'éprouver ces problématiques du rapport entre le travail et l'argent. D'où le parti pris de cette docu-fiction qui met en scène un personnage volontiers extrême, puisque c'est une espèce de rentier rémiste qui n'a pas de réalité sociologique particulière, mais qui est une sorte de passage à la limite qui permet de, en quelque sorte, de déconstruire le système, de montrer ses apories, et qui constitue une sorte de passage à la limite à travers lequel on peut développer une réflexion, je dirais, plus, selon moi, plus pertinente qu'un essai conventionnel.
C'est-à-dire qu'à travers le prisme d'un personnage comme Frank Wahlberg, où on voit son côté extrême, ou son côté un peu dilettante aussi, enfin son côté un peu psychorigide également, qu'on imagine aussi un peu en double de l'auteur. On imagine bien que c'est pas juste un écrivain qui se documente énormément et qui écrit de ça. On sent qu'il y a une part aussi
matériau biographique qui est clairement, vécu, qui est clairement assumé. Oui.
Et donc tu penses qu'à partir du moment où il y a un personnage auquel on peut plus ou moins s'identifier, où il y a ce jeu du double,
tout à fait.
Ce que tu dis, ce que tu énonces, ce que tu presque conceptualises, passe mieux,
tout à fait. Enfin, le matériau biographique est très présent dans ce texte. Bon, moi, je suis ni rentier ni RMiste, mais j'ai connu l'expérience du chômage, j'ai connu les différentes situations. Le procès, par exemple, que je raconte tout au fil de l'ouvrage, c'est une expérience vécue. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a aucune invention. Mais j'ai en quelque sorte poussé mon expérience personnelle à la limite, et que ce mode de narration me semblait plus, à la fois plus pertinent et plus efficace, je dirais, par rapport à la problématique qui était posée dans le livre sur le rapport justement entre travail et argent.
Et c'est peut-être le côté le plus subversif du livre, d'avoir utilisé une sorte de double, ce Frank Wahlberg, parce que c'est un livre éminemment subversif. On ne s'en rend pas forcément tout de suite compte qu'il y a de la subversion, mais il y a beaucoup de subversion vis-à-vis des idées, de la pensée dominante actuelle, et pas seulement sur le travail.
Oui, moi je me considère pas comme un auteur subversif, et j'ai pas voulu faire œuvre de subversion dans ce texte. J'ai voulu surtout poser des problèmes et poser des questions et essayer de reconsidérer les présupposés qui dominent aujourd'hui les débats sur le travail, sur l'emploi, etc. On parle beaucoup de précarité, de flexibilité, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces concepts avaient un peu évolué et de les inscrire dans une perspective un peu différente de celle dans laquelle le débat public tend à les enfermer. Donc, par exemple, aujourd'hui, le discours syndical est très porté à défendre les contrats à durée indéterminée, à lutter contre la flexibilité, alors qu'il n'y a pas si longtemps, les principaux syndicats militaient contre le salariat, synonyme selon eux de l'esclavage. Aujourd'hui, on considère la flexibilité comme un mal absolu, alors que cette notion de flexibilité était explicitement revendiquée par certains ouvriers de la fin du 19e siècle, qu'on appelait à l'époque les sublimes. Et ce qui m'intéressait, c'était de réactiver un peu cette figure du travailleur sublime et de montrer en quoi un individu pouvait construire son parcours en assumant pleinement ce choix de l'intermittence volontaire sans pour autant être supposé comme une victime.
Il y a un jeu historique effectivement dans le livre, tu as dû faire un travail historique, tu penses les sublimes, effectivement tu fais des constantes mises à plat avec la fin du 19e, et effectivement c'est sublime. Tu veux recadrer un peu ce qui se passe à notre époque et le monde ouvrier tel qu'il a pu être à la fin du 19e ?
Non, ce qui m'intéresse surtout, c'était de montrer qu'on est à la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on a construit l'État-providence, je dirais, depuis le fameux rapport Beveridge des années 40, et on arrive aujourd'hui à une sorte d'extinction de ce modèle-là, et ce qui m'intéressait de voir, c'était de revenir un peu à la période qui précède cette mise en place de l'État-providence, et d'imaginer à partir de ces prémices, de voir comment aujourd'hui on pouvait en sortir et imaginer d'autres modèles de vie, de socialité possibles qui échappent justement aux présupposés qui fondent ce modèle de l'État-providence, et notamment ce modèle qui privilégie l'emploi stable, continu à temps plein, qui aujourd'hui devient de plus en plus hors de portée.
On voit bien avec la réponse que tu donnes, on est à la limite du discours politique ou à un discours qui pourrait être idéologique ou qui casse le discours idéologique ambiant. On se tient tout au long de ce livre vraiment à la limite de l'essai. En quatrième de couvre, tu dis docu-fiction, on pourrait parler un terme qui m'est cher de fiction documentaire. Fiction documentaire ou un docu-fiction sur le système ANPE, par exemple.
Tout à fait.
Ou qui nous donne aussi de la documentation sur les prud'hommes.
Tout à fait.
Ou alors sur le choix de vie d'un cadre dynamique. J'ai l'impression qu'il y a ces trois dominantes. Je ne vais pas parler de thème parce que ça fait nullos pour un roman, mais ouais. Trois dominantes que tu as voulu travailler dans la fiction.
Voilà, il y a effectivement ces trois fils. Il y a un fil narratif sur l'état de la justice du travail en France aujourd'hui. Donc je raconte sous une forme parfois d'ailleurs un peu humoristique, décalée, comment fonctionne la justice du travail, ce qui est assez peu présent dans les romans. Je raconte également peut-être le petit milieu bourgeois, bohème, parisien, des quatre sup dans lequel évolue le narrateur, et là aussi c'est prétexte à la fois une réflexion sur le mode de vie de ces personnes et prétexte à des scènes également un petit peu humoristiques. Et puis au-delà de tout ça, il y a toute une réflexion sur la finance, le rapport au travail et à l'argent. Donc c'est un peu les trois fils conducteurs de l'ouvrage, effectivement.
Parce que j'ai même l'impression que dans la seconde partie du texte, à partir du chapitre 8, Sympathy for the Devil, on est là dans un ton très politique et très polémique, et que l'essai, la fiction prend le ton de l'essai. Vraiment, la fiction, j'ai l'impression qu'elle prend le ton de l'essai. Il y a un petit aparté sur l'amourette avec Ruby, oui. qui est fantastiquement drôle. J'ai l'impression que ça prend la forme après d'un essai. Tu arrives à tordre comme ça ta fiction pour lui donner un autre caractère. J'ai plus l'impression que dans la seconde partie, nous sommes dans une fiction. Et c'est ça qui est très réussi, je trouve.
En tout cas, ce n'est pas voulu. Parce que moi, j'ai plutôt voulu alterner les deux aspects. C'est-à-dire qu'à la fois des scènes très humoristiques, comme la scène à laquelle tu fais référence, qui est ce que j'appelle moi la scène de pornographie boursière, où je raconte une séance de 5 à 7 entre le narrateur et sa compagne, et je la raconte comme une séance de bourse du CAC 40. Et j'alterne par ailleurs des réflexions plus théoriques sur effectivement le travail, la finance, etc. Mais il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas volonté de ma part de faire basculer le roman à partir d'un certain point vers tel champ ou tel autre. Il y a vraiment une volonté d'équilibrer, d'alterner les deux pans et de ne pas être trop dans le sérieux théorique, de le contrebalancer parfois par l'humour de certaines scènes un petit peu ubuesques et kafkaïennes. Donc effectivement, j'ai essayé de balancer les deux, mais je, en évitant justement que ça bascule dans un camp comme, ou de l'autre.
Alors, on garde ce caractère de fiction et une des grandes originalités de Radiation, c'est pourquoi moi ça m'a donné une belle claque. C'est une fiction qui pense les mutations en cours. C'est une fiction qui est en prise avec le saillant du contemporain dans notre société. Avec pas seulement le milieu du travail, des cadres sup, il y a d'autres choses en jeu. Tu es dans les mutations en cours.
Voilà, enfin... Moi, j'ai un peu écrit ce livre donc un peu dans les spasmes post-CPE. Donc, on était en plein dans les discours sur le travail, etc. Il me semblait qu'il y avait un discours aujourd'hui aussi bien patronal que syndical que étudiant qui était assez contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, tout le monde veut avoir son CDI, une bonne retraite, etc. Et ceux qui en ont, ceux qui sont parfaitement intégrés dans le système, se plaignent de l'être, se considèrent comme aliénés. Et ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer un peu des portes de sortie à cette impasse. Et grosso modo, aujourd'hui, il y a trois types de discours. Il y a un discours de restauration qui vise un peu à nous faire revenir au bon vieux temps des Trente Glorieuses pour sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Vous avez un discours, je dirais, plus clinique qui consiste à dénoncer tous les méfaits de l'évolution du capitalisme actuel, alors que ce soit au niveau des travailleurs pauvres ou la dérive des classes moyennes. Enfin, il y a tout un certain nombre d'essais sociologiques sur ces questions-là. Et vous avez un troisième type de discours, qui est un discours plutôt managérial, qui consiste à dire qu'il faut s'adapter, c'est le sens de l'histoire, il faut absolument se satisfaire de ce que l'on a, se contenter de peu. Et voilà, il n'y a pas d'échappatoire. Et ce qui m'intéressait d'imaginer à travers ce personnage fictif, c'est justement un échappatoire à ces trois discours qui me semblent constituer une aporie. Penser effectivement à la mutation du travail, la déconnexion croissante qu'il y a entre le monde du travail et le monde de l'argent. C'est-à-dire qu'on voit bien, tout le monde expérimente bien aujourd'hui que c'est pas parce que, contrairement à ce que notre cher président prétend, on travaille plus qu'on gagne plus. Il y a des gens qui travaillent beaucoup qui gagnent très peu, des gens qui travaillent très peu qui gagnent beaucoup, que le monde de la finance est de moins en moins connecté au monde de l'emploi, et que plutôt que d'être dans un registre de la dénonciation ou de la déploration de cette réalité, c'était d'essayer de l'analyser, d'en comprendre les mécanismes, et à travers un personnage comme ça un petit peu limite, de montrer les ouvertures que cette mutation peut créer. Et donc, c'est en ce sens que moi j'ai écrit ce Radiation, c'est effectivement pour penser cette mutation et essayer de rendre lisible, en quelque sorte, c'est ça que la fonction principale que je donne au roman, c'est de rendre lisible, enfin de faire émerger une nouvelle grille de lecture par rapport à un monde qui est effectivement de plus en plus complexe, de plus en plus en mutation, en sortant des discours un peu convenus de dénonciation, de l'aliénation, etc., qui moi me semble un peu court.
Oui, c'est ce que tu dis à un moment donné. Tu dis que pas question évidemment de contester leur bien fondé sous peine de passer pour un dangereux idéologue antisocial. Tu dis ça à propos des dépenses de la NPE liées aux mesures d'accompagnement des personnes en recherche de travail. Un dangereux idéologue antisocial.
Sur ces questions-là, on est effectivement dans des schémas qui sont très, très manichéens. Je dirais soit on est pour, soit on est contre, soit on est pour les chômeurs, donc pour la multiplication des aides, mais sans véritablement réfléchir sur leur bien fondé, leur mode de mise en œuvre, etc. Donc moi j'essaie perpétuellement dans ce texte d'échapper à ces clivages en renvoyant dos à dos aussi bien un certain discours patronal qui est caricatural, que aussi un certain discours syndical qui me semble aussi problématique. Donc j'essaie de naviguer entre les deux eaux et d'essayer de frayer une voie un petit peu alternative, disons.
Alors j'imagine, par rapport aux personnes qui ont commencé par lire Le Décodeur, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai commencé par lire Radiation, et ensuite j'ai voulu lire Le Décodeur, donc le premier roman, ou premier texte de fiction que tu as sorti, j'imagine qu'il y a quand même des retournements dans la fiction. Le Décodeur, est-ce que tu peux nous dire en, comme ça, pareil, quelques phrases, nous présenter ce texte, de quoi il s'agit. Tu peux peut-être attaquer juste par la superficie et on entrera après dans la fabrication.
La superficie, comment ça, la superficie?
C'est-à-dire l'histoire.
L'histoire, c'était le point de départ du livre, c'est l'argument, le pitch, comme on dit maintenant, c'est un site internet qui est supposé avoir servi de canal de communication à un réseau terroriste. Donc un site qui est consacré à une fiction policière à la télévision, qui comporte un forum. Sur ces forums sont postés différents messages, et ces messages sont supposés recéler un certain nombre de messages cryptés, recouvrant une machination dont on ne mesure pas au départ les tenants et les aboutissants. Et le texte se présente comme la retranscription de ce site, le décodage de ce site, et la mise à nu en quelque sorte des messages cryptés qui circulent de façon codée, d'où le titre Le Décodeur. Et donc le texte est une invitation pour le lecteur à naviguer à travers un site qui est retranscrit de façon la plus littérale possible dans l'ouvrage. Donc c'est un livre qui se présente un peu comme une fiction hypertextuelle, si on peut utiliser ce gros mot. Et donc c'est une navigation à travers des multitudes d'indices que le lecteur est invité à décoder et à analyser pour essayer de comprendre ce qui se trame en quelque sorte derrière tous ces indices.
Alors, il y a quand même une histoire de meurtre.
Oui.
C'est celui de Veronica Pestoia.
Pestoia.
Oui. Et la recherche de preuves contre son amant, Franck Lemat, qui est un malfrat réputé, la personnalité un peu complexe. Donc on a ces deux personnages. Là, à nouveau, il y a personnages. Il y a ces deux personnages qui vont être le fil, surtout Franck Lemat, qui va être le fil conducteur de toute l'intrigue. Et l'intrigue, donc, c'est aussi ce jeu de sorte de, pas de cut-up, pas de lien hypertextuel, mais en fait, tout le livre est écrit avec des fragments, avec des bouts.
Des fragments de fiction.
De fiction, d'essais, de documentaires, dont la liste est citée à la fin, et la liste est assez impressionnante.
Il y a une centaine de références à la fin de l'ouvrage. Voilà. Ouais. Mais donc, effectivement, la trame policière est en fait la trame de l'émission télévisée auquel est consacré le site internet dont je parle dans le livre. Donc ça sert effectivement de fil conducteur. Et le site internet dédié à cette fiction policière recèle par ailleurs dans son forum un certain nombre de messages codés sous la forme d'un ce qu'on appelle maintenant un babillard. Et donc il y a effectivement deux niveaux de lecture. Il y a le niveau, je dirais, de la fiction policière un peu basique, un peu cliché, tel qu'on peut en trouver dans certaines séries télévisées, donc avec une femme qui est retrouvée morte, dont on accuse son amant, son mari, etc. Enfin, je veux dire, tous les poncifs, je dirais, de la fiction télévisuelle policière. Et parallèlement à ce niveau de lecture, il y a tout un ensemble de commentaires qui viennent se envelopper en quelque sorte ce fil directeur, qui le contamine et qui crée une fiction un peu hybride et qui constitue la matière même du décodeur.
C'est une fiction policière dont le propre mystère consiste à la méthode de fabrication de la fiction, j'ai l'impression. Le mystère, c'est presque la matière utilisée pour fabriquer la fiction. C'est l'effet que ça m'a fait.
Disons que l'objectif, c'était d'inventer une fiction qui consiste en quelque sorte à réfracter toutes les fictions qui nous traversent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est bombardé d'informations, on est assujetti à un flux de plus en plus violent de fiction, de messages, de spots, etc. Et le parti pris de ce texte est plutôt que d'en rajouter, c'est-à-dire plutôt de créer ma propre petite fiction, de créer un flux supplémentaire, c'est-à-dire en quelque sorte d'imaginer une sorte d'entonnoir qui réfracte ces flux, qui essaie de les détourner, de les recombiner et de faire émerger quelque chose de singulier, de personnel. Et donc c'est un travail que moi je présenterais comme quasiment photographique, c'est-à-dire qu'on ce texte-là, contrairement à Radiation, se présente explicitement comme un roman, mais un roman qui serait en quelque sorte une plaque sensible sur laquelle viendraient s'imprimer différents messages, flux, données de tout genre, et qui se recomposerait pour donner une forme à quelque chose de singulier, qui est en l'occurrence le texte lui-même.
J'ai l'impression qu'à la fois dans le décodeur, mais peut-être que dans le décodeur c'est plus saillant que dans Radiation, mais que pour ces deux textes, on a affaire à des textes programmatiques, des textes à concept. Tu crées un concept pour le décodeur, ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'il y en a aussi un pour Radiation avec ce documentaire fictionnel. J'ai l'impression que tu fabriques un concept et après cette fabrication de concept ou de ce programme, ça y est, tu fabriques le texte, parce qu'ils sont très différents.
Très différents, tout à fait.
L'un et l'autre, on n'imagine pas forcément du tout que c'est le même auteur. Oui, oui. Même si je crois qu'on trouve un peu Frank Wahlberg dans le décodeur.
Voilà, il est juste
un petit peu nommé, très léger. J'ai l'impression vraiment qu'à chaque fois, tu fais un texte à programme, à concept.
C'est peut-être plus vrai pour le décodeur. Radiation, honnêtement, j'ai écrit ce livre de façon très, très rapide, très fluide. Enfin, je me suis beaucoup moins interrogé sur la matière même du roman. Pour moi, c'est une rédaction assez naturelle, c'est-à-dire que dans la mesure où elle était inspirée d'une expérience personnelle. Donc c'était à la fois le récit poussé à la limite de ce que moi-même j'avais vécu, puis à la fois des réflexions qui venaient se greffer là-dessus. Donc c'était moins vrai pour Radiation, mais c'est vrai que pour le décodeur, je partagerais volontiers le concept que développe par exemple un Philippe Vassé quand il parle de livre performance, comme dans son dernier ouvrage Un livre blanc. Donc il met en sorte une sorte de dispositif narratif qui pour lui consistait à explorer des zones vierges de cartes. Là, en quelque sorte, c'était une exploration non pas de zones vierges mais de zones saturées de messages, de fiction, de flux en tout genre, et cette exploration prenait la forme d'un travail quasiment photographique. Moi, j'évoque beaucoup dans ce texte les figures d'Étienne Jules Marais, par exemple, qui est le chronophotographe qui me fascine assez. Et donc, c'était un travail, je dirais, de photographie, d'impression, de détournement de tous ces flux. Effectivement, en ce sens-là, on peut parler de livre programmatique, si on veut, ou de livre performance, comme Philippe Vassé.
Enfin, tu viens de citer Philippe Vassé, justement, il nous en a parlé d'un livre blanc au mois d'octobre. Tu te sens proche de qui dans le paysage littéraire expérimental, parce qu'on peut, enfin, on classe ça tout de suite dans l'expérimentation tout de même.
Oui, moi je me
souviens. Ça a beau être dans l'infini chez Gallimard, c'est complètement dans l'expérimentation du texte, de la littérature. Tu viens de citer Philippe Vassé, il y a d'autres personnes comme ça qui engagent un travail qui te semble un peu similaire ou proche.
Sans flagornerie par rapport à votre prochaine invité, moi j'aime beaucoup ce que fait Chloé Delhomme. J'ai
chouette.
non, mais déjà des ouvrages comme Mon Cri du Sablier, Le Frère d'Atropos sont des livres qui m'ont marqué. J'ai beaucoup aimé aussi Corpus Simsic, qui est une exploration là aussi des zones virtuelles, des avatars, etc. Moi, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Mais autrement, dans les jeunes écrivains, j'aime bien certains textes de Bruce Bégou, par exemple. Là, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête, mais. Bon, c'est vrai que dans l'infini, j'ai assez peu d'affinité avec les auteurs verticales. Non, enfin, c'est plutôt du côté de peut-être Eric Arlix, dont j'ai lu Le Monde Joue, qui m'a beaucoup intéressé. Donc c'est plutôt lancé dans cette zone-là que les affinités se résident.
Peuvent se faire. Voilà. Et les prochains textes à écrire, parce que c'est... C'est surprenant. Enfin, le troisième, là, on se dit, voilà, dans quelle direction tu vas partir. Est-ce que c'est à partir encore de sortes de concepts comme ça, de programmes que
moi, je qui pense vont, que ça aura à voir éventuellement avec le monde de la finance, avec le monde les mondes virtuels. Enfin, je suis assez fasciné en ce moment par ce qui se passe avec ce compte Life, mais pas forcément pour les raisons qu'on traitait, par exemple, un auteur comme Henri Monnier qui avait fait un texte récemment qui s'appelle Une seconde vie. Ce qui m'intéresse dans ce compte Life, par exemple, c'est le phénomène monétaire, c'est-à-dire la possibilité de, développer des activités, de les monétiser et de rebasculer cette fausse monnaie virtuelle dans le Second Life, dans le monde réel. Et je trouve que c'est un concept intéressant qui permet d'explorer la porosité entre monde réel et monde virtuel. Je suis assez intéressé par tout ce qui se développe sur ces questions-là. Et peut-être que mon troisième texte tournera autour de ces questions-là, même si pour l'instant, je n'ai pas de projet véritablement avancé dans ce domaine.
Second Life, ça me fait penser à un dossier de Chronicart récent dans l'avant-dernier numéro, oui. Ou avant-avant-dernier. Donc Chronicart, on n'en a jamais parlé encore à cette émission. C'est un magazine qui se trouve dans la plupart des kiosques, magazine culturel connecté. C'est un magazine moi, que je lis avec grand intérêt tous les mois. Toi aussi, qu'est-ce que pourrait être l'intérêt pour Chronicart? Qu'est-ce qu'on y trouve dans Chronicart? On trouve visible. Enfin, moi, pour moi, je ne trouve pas dans d'autres.
Moi, c'est pareil.
Enfin, magazines à l'heure actuelle.
C'est un magazine qui est à la fois connecté, sans être ultra branchouille, c'est-à-dire qui échappe un peu à l'impasse un peu branchée de certains autres magazines, mais surtout un magazine moi qui m'ouvre sur des espaces que je connais pas, donc qui me fait découvrir des auteurs, qui me fait des. Oui, c'est vraiment un magazine qui crée une fenêtre sur de nouveaux espaces culturels, aussi bien dans l'art contemporain que dans la littérature, la musique, etc. Et justement, le dernier numéro, là, le 40, qui parle de toute l'effervescence Facebook, etc., tous les enjeux posés par la prolifération des bases de données, l'exploitation de tous ces nouveaux outils qui peuvent éventuellement attenter à la liberté individuelle, à la propriété. Et moi, là, je vois également sur la couverture un entretien fleuve avec Ruven Augien, que j'aime beaucoup, qui est un moraliste, entre guillemets, qui a écrit des ouvrages que je trouve assez remarquables également. Donc tout ça, c'est des gens qu'on a peu l'occasion d'entendre, qui là, ont la possibilité de s'exprimer assez longuement dans le cadre d'interviews assez intéressantes. Donc moi, c'est effectivement un magazine que je lis, que je recommande.
Merci beaucoup Guy Tournet,
merci à vous
beaucoup d'être venu à l'émission, c'était vraiment...
J'étais très heureux de revenir sur
les
lieux de mon enfance, parce que j'ai fait mes études pas loin d'ici, donc c'est un plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup.